cheminée. Dans la forêt des mots, il sculpta son langage. Sa mémoire s'allongea au-delà du passé. Dans l'océan des signes, il puisa ses images, sa vision s'ajusta au rythme des cités. Dans le spectacle des choses, il creusa son sillage, l'instant ensemença les dunes d'éternité. L'arbre. De ce tronc noueux, de cette charpente pierreuse, de ces branches racornies, renaissent éternellement, aiguisées par la sève, bourgeons, feuillages et fruits. Remous qui contiennent toute mesure et secrètent l'équilibre de la mort, de la vie.
So take it slow. You're coming up, you're coming around the bend. You're my good friend, best friend, and you're coming up, you're coming around the bend. You're making friends with the fireflies. I can't say that that comes as a surprise, but that things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends, but I'm wising up to them.
Walden ou la vie dans les bois, Henry David Thoreau, chapitre 6, Visiteur. Je pense aimer la compagnie autant que la plupart des gens, et je ne répugne pas à m'accrocher quelque temps comme une sangsue au premier homme robuste qui se présenterait à moi. Je ne suis pas un ermite de nature, et je pourrais fort bien rester au bar plus longtemps que le plus assidu des clients, si tel était le lieu où mes affaires me menaient. Dans ma maison, j'avais trois chaises, 1 pour la solitude, 2 pour l'amitié, 3 pour le monde. Lorsque des visiteurs venaient à l'improviste en nombre supérieur, ils n'avaient que la troisième chaise à se partager entre eux tous, mais ils économisaient généralement l'espace de la maison en s'abstenant de s'asseoir. C'est étonnant le nombre d'hommes et de femmes formidables que l'on peut faire tenir dans une petite maison. J'ai parfois accueilli en même temps sous mon toit jusqu'à 25 ou 30 âmes accompagnées de leur corps. Et pourtant, à la fin, nous nous séparions sans aucune conscience d'avoir été vraiment très près les uns des autres. Bon nombre de nos demeures, qu'elles soient publiques ou privées, me semblent extravagamment spacieuses pour leurs habitants, avec leurs innombrables appartements, leurs halls immenses et leurs caves et celliers pour le stockage du vin et autres munitions de temps de paix. Ma meilleure pièce, mon salon de conversation toujours prêt pour accueillir des hôtes et sur le tapis duquel le soleil ne tombait que rarement, était la pinède qui se trouvait derrière chez moi. Les jours d'été, lorsque venaient des hôtes de marque, c'est là que je les emmenais. Un inestimable domestique naturel, dont je n'aurais jamais eu les moyens de m'offrir les services, s'occupait de balayer le sol, épousseter les meubles et tout maintenir en bon ordre. Lorsque venait un hôte, il partageait parfois mon repas frugal et cela ne causait aucune interruption dans la conversation si je me mettais entre-temps à préparer quelques rapides ragoûts ou bien à surveiller la levée et la maturation d'une boule de pâte à pain posée au bord de l'âtre. Mais s'il en venait 20, il n'était pas question de dîner, bien qu'il eût pu y avoir du pain pour deux, soit plus qu'il n'en faudrait si nous avions abandonné l'habitude de manger. Mais nous pratiquions d'ordinaire l'abstinence, et ce n'était jamais vécu comme une offense faite à l'hospitalité, mais au contraire comme l'attitude la plus convenable et la plus amicale. Je pouvais ainsi recevoir tout aussi bien 1000 personnes que 20. Et si une seule personne est jamais repartie de chez moi déçue ou affamée alors que j'étais là, elle peut être certaine d'avoir au moins reçu toute ma compassion. Bien que de nombreux maîtres et maîtresses de maison en doute, il est vraiment très simple d'établir de nouvelles, meilleures coutumes en lieu et place des anciennes. On ne mise pas sa réputation sur les dîners que l'on donne. En ce qui me concerne, aucun cerbère ne m'a jamais aussi puissamment et concrètement découragé de fréquenter la maison de quelqu'un que le grand tralala que son hôte faisait du dîner qu'il m'offrait. Tralala que je prenais comme une façon détournée très polie de me faire comprendre que je ne devrais jamais plus m'aviser de lui causer autant de tracas. Je crois que je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce genre de réception. Je reçus plus de visites alors que je résidais dans les bois que durant aucune autre période de ma vie. Je veux dire par là que j'en reçus un peu. J'y accueillis un certain nombre de personnes dans des conditions plus plaisantes que je n'eusse pu en trouver nulle part ailleurs. Mais les gens ne venaient moins me voir pour des motifs futiles. En ce sens, ma compagnie s'étiola en proportion de la distance qui me séparait de la ville. Je m'étais retiré si loin dans le vaste océan de la solitude dans lequel se déversent les fleuves du monde que pour l'essentiel, en ce qui concernait mes besoins personnels, seuls les sédiments les plus précieux parvenaient jusqu'à moi. Telles des poules chargées d'un seul petit, encore poussin qui plus est. Des hommes qui avaient mis l'idée et qui ne savaient où donner de la tête, comme ces poules auxquelles on confie 100 poulets, tous à la poursuite d'un même moucheron, 20 d'entre eux se perdant dans la rosée de chaque matin, bientôt devenus galeux faute de soins suffisants. Des hommes qui avaient des idées en lieu et place des jambes, sorte de 1000 pattes spirituelles qui vous faisaient ramper dans tous les sens. Un homme proposa de m'offrir un livre dans lequel les visiteurs devraient inscrire leur nom comme dans les montagnes blanches. Mais hélas, j'ai une mémoire trop bonne pour que ce soit utile. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer certaines particularités de mes visiteurs. Les jeunes filles, jeunes garçons et jeunes femmes était en général heureux d'être en forêt. Il regardait l'eau de l'étang, puis regardait les fleurs et passait du bon temps. Les hommes qui avaient un métier, y compris les fermiers, ne pensaient qu'à ma solitude et à mon travail, ainsi qu'aux grandes distances qui me séparaient de ceci ou de cela. Eux, à l'évidence, ne prenaient pas de bon temps. Hommes agités, constamment occupés, dont le temps était entièrement pris par la nécessité de trouver un gagne-pain ou de le conserver. Pasteurs qui parlaient de Dieu comme s'ils eussent joui d'un monopole sur la question et ne toléraient pas toutes sortes d'opinions. Docteurs, hommes de loi, maîtresses de maison démunies qui venaient fourrer leur nez dans mon placard et dans mon lit lorsque je n'étais pas là. Sinon, comment diable, Madame X aurait-elle pu prétendre que mes draps étaient moins propres que les siens ? Des jeunes hommes qui avaient cessé d'être jeunes et avaient décidé que la voie la plus sûre était de s'engager dans les professions libérales. Tout cela me disait qu'il n'était pas possible de faire beaucoup de bien dans la situation où je me trouvais. Oui, là était effectivement le hic. Les vieux, les infirmes, les timides de tout âge et de tout sexe parlaient surtout de maladies, d'accidents violents et de morts. Pour eux, la vie semblait pleine de dangers. Mais quel danger y a-t-il si vous n'y pensez pas ? Et ils pensaient qu'un homme avisé devrait mettre grand soin à se choisir un lieu particulièrement sûr, un lieu où le docteur B pourrait intervenir très rapidement. Pour eux, le village était littéralement une ligue de défense mutuelle, et il paraissait clair que jamais ils ne s'en iraient à la cueillette des myrtilles sans emporter une pleine armoire à pharmacie. Au bout du compte, la vérité est que si un homme est en vie, il court toujours le danger de mourir, même s'il est vrai que ce danger devrait être réduit en proportion exacte que notre homme est ou n'est pas déjà un mort-vivant. Je ne craignais pas que les rapaces à plumes viennent perturber mes poules, car je n'avais pas de poules. Je craignais fort, en revanche, que les vautours bipèdes sans plumes viennent me perturber, moi. Je reçus plus de visiteurs joyeux que de visiteurs de cette dernière catégorie. Des enfants partis à la cueillette des baies, des ouvriers du train faisant leur promenade dominicale vêtus d'une chemise propre, des pêcheurs, des chasseurs, des poètes et des philosophes, bref, que des pèlerins honnêtes qui venaient dans les bois en quête de liberté et laissaient réellement la petite ville derrière eux. Tous ces visiteurs-là, j'étais heureux de les accueillir, car j'avais déjà été en contact avec cette race de gens.
If you try to be an icon, then the icon becomes you. If you try to be a model, it'll catwalk over you. If you try to walk in straight shoes, then these shoes will bend you too. If you try to be a kid again, the kid will kidnap you. You know it's true. The guy you know, well, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through. When there is no one left to fool, don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. So don't try to be an icon, come the eye inside of you. That picture you've been painting doesn't look a thing like you. I'll agree that it's a nice try, but when your paint is dry, we're all just little icons, super you and super I. You know it's true, the guy you know, well, that's just you. And there is nothing you can do, just like a door you can get through. When there is no one left to fool, don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. Solo.
like the eye. Said that guy looked pretty strange, but you never tried to change me. That's how I come to change. You know it's true.